Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux relations entre la Russie et l'Occident et les conséquences de leur forte dégradation depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014. Paix froide, guerre froide, nouvelle confrontation Est-Ouest. Difficile de savoir quels mots poser sur ces nouveaux rapports. D'aucuns parlent de schisme russo-occidental, d'autres de simples confrontations. Confrontations qui tout de même pourraient être aussi froides et potentiellement dangereuses que la guerre froide. Regard sur un malaise grandissant et ses conséquences. Conséquence avec nos invités, Marie Mindras, politologue au CNRS Série Sciences Po et membre de la revue Esprit. Bonjour.
Bonjour.
Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et membre de la revue des Deux Mondes et de la revue de l'IFRI, politique étrangère. Bonjour.
Bonjour.
L'actualité ne manque pas d'exemples pour illustrer notre propos d'aujourd'hui, qui pourrait aussi s'intituler « Le monde vu de Russie ». Quelques jours après le début d'accord sur le nucléaire iranien à Lausanne, Moscou a annoncé cette semaine sa décision de vendre des missiles anti-aériens à l'Iran, des missiles sol-air de longue portée, baptisés S-300. Cette décision vient rompre le régime de sanctions onusien. Un commentaire, Thomas Gomard.
C'est très clairement un élément perturbateur, c'est-à-dire que la grande question de relations internationales de ces derniers mois était précisément la manière dont l'Iran allait faire son retour sur la scène internationale. L'accord de Lausanne était le premier pas, mais devait être concrétisé avec des négociations qui devaient aboutir avant la fin du mois de juin. Et cette décision russe perturbe d'une certaine manière le dispositif parce que ça a provoqué des réactions très vives, en particulier en Israël. Comme vous le savez probablement, il y avait eu une décision du président Medvedev en 2010 de suspendre ces livraisons. Et donc ça va évidemment durcir la position d'Israël qui était déjà très tendue par rapport à l'accord de Lausanne. Et puis par ailleurs, je pense que c'est aussi à analyser sur le fait que désormais la Russie considère que victime de sanctions ou est dans une situation aussi similaire à celle de l'Iran. Et donc il y a aussi une dimension, je qualifierais un peu de géopolitique, d'essayer de fédérer peut-être les pays proscrits par la communauté internationale ou par les occidentaux. Donc c'est une décision, à mon avis, effectivement, probablement beaucoup plus importante sur le plan politique que sur le plan militaire.
Alors vous parlez de la relation avec Israël et de cette tension qu'a généré l'annonce de cette livraison. Thomas Gomard, ce qu'on peut quand même dire, c'est que d'abord Vladimir Poutine a pris le soin de prévenir son allié israélien, ce qui malgré tout, et j'en viens à la place de la Russie au Proche et au Moyen-Orient, qui est une place somme toute tout à fait particulière, avec cette particularité de Moscou qui a été de toujours réussir à se distinguer des positions occidentales.
Alors d'abord sur la relation Russie-Israël, un bref arrêt, et je pense que c'est une relation en fait très structurante, qu'on n'a pas forcément suffisamment regardée. On s'est beaucoup intéressé à la relation Russie-Iran, en délaissant la relation Russie-Israël. Elle est extrêmement dense dans le domaine de la sécurité. Elle a aussi des implications politiques, puisque les russophones sont une force politique en Israël. Je ne sais pas si on peut parler d'alliés, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des convergences très fortes sur un certain nombre de dossiers, et notamment Israël n'a pas condamné l'annexion de la Crimée en mars 2014, fait partie des pays qui se sont abstenus lors de la résolution des Nations Unies. Donc effectivement, il y a eu des signaux envoyés à l'égard de Tel Aviv qui se voulaient rassurants de la part de Moscou. Cela étant, les réactions de Netanyahou et de son équipe ne sont pas franchement, emballées à la perspective d'avoir un Iran doté de S-300. Maintenant, pour répondre plus largement à votre question sur le Proche et le Moyen-Orient, je commencerai par dire que ce que nous on considère comme notre Proche et notre Moyen-Orient n'est pas le Proche et le Moyen-Orient de la Russie. C'est-à-dire qu'évidemment, leur géographie est très différente. Et pour caractériser la politique russe au Moyen-Orient, je pense qu'elle est en réalité assez agile, dans la mesure où la Russie aujourd'hui a des relations resserrées avec la Turquie d'Erdogan, a des relations, en dépit de ce que je viens de dire sur le S-300, substantielles avec Israël, avait reconnu le Hamas, a des liens très étroits avec les cadres de l'autorité palestinienne, évidemment a ses liens très étroits avec la Syrie, a ses relations avec l'Iran, à des rapports extrêmement ambivalents, compliqués avec Riyad, très tendus, très conflictuels, mais en même temps qui ont fait l'objet dans certains domaines d'amélioration. Et autrement dit, je pense que la Russie, c'est plus compliqué avec les autres monarchies du Golfe, mais d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que la Russie a, d'une certaine manière, essayé d'utiliser le retrait américain du Moyen-Orient et dans une situation où elle exerce une influence probablement disproportionnée par rapport à son potentiel réel dans la région.
Marie Mindras, la politique de la Russie au Moyen-Orient, une politique agile, comme vient de le dire Thomas Gomard, et en tout cas extrêmement réfléchie, c'est-à-dire que chaque chose semble, vu de l'extérieur, très très posée, très pensée.
C'est aussi une politique brutale.
La Russie est le pays qui, dès le début des troubles en Syrie, en 2011, a soutenu militairement, financièrement, Bachar el-Assad et l'armée de Bachar el-Assad contre sa propre population. Alors, oui, à partir du moment où un État comme la Russie peut utiliser des moyens aussi lourds pour influencer le rapport de force, et on a bien vu que là, les pays occidentaux n'ont pas été capables, n'ont pas voulu ou n'ont pas pu, en tout cas n'ont pas décidé d'intervenir par des frappes ciblées contre le régime de Bachar el-Assad en 2013, ben pour Moscou, cela a été interprété comme, eh bien, bon, notre axe Iran-Syrie-Hezbollah peut continuer à fonctionner. Et je pense que dans la réaction russe à l'accord ou pré-accord sur l'Iran, je pense, comme le disait Thomas Gomard, que c'est un signal. C'est un signal, c'est-à-dire, ben voilà, nous considérons que nous avons la liberté de vendre ces missiles à l'Iran et de reprendre une coopération militaire qui, on peut l'imaginer, avec un certain nombre de ces pays, de toute façon, se faisait aussi de manière non officielle.
Et que les sanctions donc n'ont plus lieu d'être, étant donné ce début d'accord. L'une des spécificités également, Thomas Gomard, concernant la Russie au Moyen-Orient, c'est cette certaine liberté, d'une certaine manière, en tout cas, c'est cette absence de dépendance de tout ce qui est hydrocarbures du proche et Moyen-Orient pour la Russie, ce qui fait aussi sa force.
Oui, je crois qu'il y a deux traits en fait singuliers pour la Russie au Moyen-Orient. Le premier, c'est celui que vous indiquiez, c'est-à-dire que par rapport aux quatre autres membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité, la Russie n'est pas dans un rapport historique avec l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe, qui consiste, pour simplifier à outrance, à prendre de l'énergie, vendre des armes et faire preuve de tolérance politique. Elle prend pas d'énergie. Elle vend des armes, mais elle ne fait pas preuve de tolérance politique par rapport à ces régimes. Ce qui effectivement lui donne une certaine liberté d'action que des capitales comme Paris et Londres n'ont pas forcément. La deuxième chose caractéristique de la Russie, et c'est, comme vous le savez, moi j'essaie de relier la crise ukrainienne à la crise, ce qu'on appelle maintenant le SIRAC en fait, hein, cette conjonction des crises irakiennes et syriennes, c'est qu'au fond, il y a une très forte part, de mon point de vue, de mimétisme dans le comportement de la Russie par rapport aux Occidentaux. Et là encore, en fait, quand on regarde les choses depuis la fin des années 90, il y a quatre pays membres permanents du Conseil de sécurité qui, par des interventions militaires, ont fait exploser des États souverains. Les États-Unis et la Grande-Bretagne en Irak, la France et la Grande-Bretagne en Libye et la Russie en Ukraine. Et au fond, ça, je pense que c'est une lecture à avoir, c'est-à-dire qu'il y a dans le comportement russe, et c'est très construit idéologiquement, une volonté de répondre presque du tac au tac au comportement occidental.
Marie Madras, vous partagez ?
Je pense que c'est un petit peu moins systématique, rationalisé, organisé que ce qui vient d'être dit. Je pense que le régime russe a quand même des capacités limitées dans de plus en plus de domaines, est quand même beaucoup plus isolé sur la scène internationale aujourd'hui qu'il y a un an, avant l'annexion de la Crimée, que les quelques partenaires sûrs de la Russie sont des dictatures, donc avoir le soutien de l'Iran, de la Syrie, de quelques autres États qui sont d'abord et avant tout des États qui perturbent plutôt que des États qui produisent, qui apportent des solutions sur la scène internationale. Donc je dirais que souvent, les réactions du Kremlin sont plus des réactions immédiate. Je pense pas qu'il y ait une grande stratégie. Et nous avons un peu trop tendance, il me semble, chez nous, à les rationaliser et à essayer de montrer que Poutine, en fait, a un grand plan, que tout s'organise bien. Ce que je vois du côté de Moscou, quand on essaye de comprendre les débats qui ne sont pas publics, et quand même les débats qui ont lieu au sein des élites sur la position de la Russie aujourd'hui. On voit que les élites sont inquiètes. C'est-à-dire qu'elles ne voient pas cette trajectoire que semblerait tracer Poutine vers je ne sais quelle forme de puissance régionale ou de puissance mondiale. Les élites sont inquiètes parce que elles observent les faits et elles les subissent. C'est une récession économique importante
et dont la Russie ne va pas sortir dans les mois qui viennent. Ce sont des sanctions économiques venant à la fois de l'Union européenne, mais de tous les pays occidentaux et des grandes démocraties du monde, qui posent un problème à un certain nombre de personnalités en Russie et à des entreprises et des banques russes. Et tant que Vladimir Poutine continue sa politique en Ukraine, il est probable que ces sanctions seront maintenues. On ne peut pas dire ce qui va se passer en juin quand l'Union européenne va voter. Mais imaginez du point de vue des élites économiques. En Russie, c'est quand même une grande interrogation. Enfin, ce que vous voyez également ces élites, c'est qu'elles sont de plus en plus isolées. Elles avaient l'habitude d'être beaucoup plus en contact permanent avec nous, les Européens, les Américains. On n'a pas encore parlé de l'Amérique, mais je pense qu'on va y venir. Et il faut bien comprendre que ces élites, aujourd'hui, doivent continuer à être loyales au Kremlin, mais s'inquiètent d'aller droit dans le mur avec la politique guerrière du Kremlin qui les isole, qui est en train, pour le moment, de limiter leurs perspectives. Donc, je dirais que l'analyse que l'on fait aujourd'hui, tout dépend si on a une analyse à très court terme. On peut dire, oui, regardez, Poutine peut faire ce qu'il veut avec l'Iran, il peut faire ce qu'il veut dans l'Est de l'Ukraine. Et si on a un regard un peu plus long terme, où là, on ne voit pas bien quelles sont les perspectives pour le régime Poutine.
Donc, court terme d'un côté, long terme de l'autre. En tout cas, et à vous entendre l'un et l'autre, ce qu'on constate, c'est un énorme paradoxe concernant la Russie. Je me tourne vers vous, Thomas Gomard. Avec d'un côté, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, une Russie de plus en plus isolée. Il n'empêche qu'il y a un besoin de Russie dans tous les grands dossiers du monde.
C'est un isolement qui est évident. Enfin, je veux dire, la situation de la Russie s'est vraiment beaucoup détériorée sur le plan international depuis mars 2014, mais qui est quand même relatif pour les raisons que vous indiquiez, c'est-à-dire que il y a un besoin évident de la Russie sur le dossier iranien en particulier, mais pas seulement. Et puis également, effectivement, il y a une dizaine de pays qui sont les soutiens forcenés de la Russie, mais il y a quand même plus de 50 pays qui se sont abstenus.
Au moment de la résolution.
Et parmi lesquels, il y a des positions diplomatiques très importantes à analyser là-dessus. C'est-à-dire que quand la Chine, l'Inde, le Brésil, Israël s'abstiennent, ça veut aussi dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je pense, quelque chose qui est senti par... C'est aussi une manière d'alimenter le débat avec Marie Mindras, qui est senti, à mon avis, par la Russie. C'est que effectivement, je partage son avis sur le fait qu'il n'y a pas forcément de grande stratégie, qu'il y a un côté très réactif chez Poutine. Mais je ne vois pas plus de stratégie côté occidental pour le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'en fait, la double crise que nous vivons s'explique, à mon avis aussi, par des phénomènes de retrait américain au Moyen-Orient et en Europe, par un phénomène en Europe de démilitarisation des Européens quand les Russes ont réarmé. Et au fond, on est dans une situation aussi où je pense que les Occidentaux n'ont pas été que des producteurs de sécurité, mais également des éléments déstabilisateurs. Et ça... La Russie le comprend, en joue, à la fois par mimétisme, c'est-à-dire ce qui va lui poser problème, c'est cette contradiction très forte, à mon sens, effectivement, entre son potentiel et ce qu'elle prétend faire. Il va y avoir une situation de tension très probable qui va s'exprimer à court ou moyen terme. Mais également, elle sent, à mon avis, très bien le fait que elle cherche à accompagner, et c'est probablement une rupture historique pour elle, à accompagner la perte de monopole des Occidentaux sur les affaires mondiales. Et donc, si vous voulez, dans le positionnement de la Russie, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut être attentif quand on classe la Russie, c'est qu'en même temps, elle traduit, je pense, un courant qui est partagé par d'autres pays et qui est dans une logique de, le temps des Occidentaux n'est pas révolu, mais doit changer. Leur type de domination sur les affaires mondiales, en particulier sur celui des États-Unis, doit changer.
Il n'empêche que pour eux, les États-Unis sont quand même... le partenaire principal. Poutine, en cela, est vraiment l'héritier de cette tradition soviétique du bloc à bloc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus un bloc à bloc, c'est la Russie presque seule, avec donc très peu d'alliés véritables autour, face à une cinquantaine de pays dits occidentaux. Donc on a une vraie... Mais à écouter Poutine, Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, et surtout à suivre ce qu'ils font ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, on voit bien à chaque fois un appel vers l'Amérique d'essayer d'exister par ce partenariat avec les États-Unis. Et je crois que là, on touche l'une des contradictions des politiques poutiniennes des dernières années. C'est d'un côté d'aller vers la confrontation directe avec les États-Unis, l'OTAN, l'Europe, et en même temps de continuer à mettre au cœur de leur politique le monde occidental. Et là, on le voit bien dans la relation avec la Chine, où, bien entendu, Moscou fait beaucoup d'efforts pour alimenter une relation avec Pékin, mais qui ne peut d'aucune manière, dans les années qui viennent, se substituer à une relation à la fois sécuritaire, diplomatique, politique, avec les pays d'Europe et du monde occidental. Et on sent une inquiétude du Kremlin face à la politique actuelle des États-Unis, qu'ils ont d'ailleurs du mal à lire, quelquefois nous aussi d'ailleurs, où pour eux il est difficile de comprendre comment se fait cette politique américaine avec une position du Congrès américain qui est très anti-Poutine et la position de l'administration Obama qui est beaucoup plus en demi-teinte, et on l'a bien vu pendant ces 18 mois de conflit en Ukraine. Ils sont donc aussi dans l'attente de voir comment la position américaine va évoluer. Et l'Amérique, l'an prochain, sera dans une année électorale. Et il me semble que cela, c'est quand même une faiblesse pour le Kremlin. C'est d'être toujours en attente de signaux venant de Washington et de l'OTAN.
Alors, bon, de ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de choses et ce serait intéressant de développer. On n'a pas beaucoup de temps dans le temps qui nous reste pour cette première partie d'émission. Ce que je retiens de ce que vous avez dit l'un l'autre, c'est que Moscou est effectivement convaincue du caractère inéluctable du destin de l'Occident et que d'une certaine manière, elle s'éloigne donc dans l'Europe tout en ayant évidemment toujours besoin d'Europe. Et quelques mots sur la question de la relation avec la Chine. On a vu la Russie et les Chinois voter contre beaucoup de résolutions de l'ONU ces dernières années, Thomas Gomard. Et pourtant, on sent la Chine se mettre légèrement en retrait, ou en tout cas laisser la Russie agir et être en première ligne du front et avoir une attitude davantage prudente. Est-ce que quelque chose a changé dans la relation entre la Chine et Moscou ?
Oui, quelque chose a changé, ça, indiscutablement. D'abord, la Chine, en 2012, est devenue le premier partenaire commercial de la Russie, en termes bilatéraux. Ensuite, il y a eu, pendant des années, une coopération militaire assez étroite, c'est-à-dire que une partie de l'explosion de la dépense militaire chinoise a consisté notamment à acheter des systèmes d'armes russes. Il y a eu un accord frontalier en 2005 entre les pays qui est considéré par Vladimir Poutine comme sa principale réalisation en politique étrangère. Et effectivement, il y a eu un débat qu'on a peut-être pris plus en retard qu'aux États-Unis sur une sorte de convergence idéologique, de moment au fond autoritaire entre Pékin et Moscou, qui est formulé aux États-Unis dès 2006, dès 2007, et qui va prendre des traductions très visibles, enfin en partie visibles, sur les questions de gouvernance du numérique notamment, où les deux pays ont une approche très similaire et considèrent que la gouvernance du numérique doit être complètement régie par les États. Pour aller vite là-dessus, le problème fondamental aujourd'hui de la Russie, c'est que l'économie russe et l'économie chinoise, enfin l'économie soviétique et l'économie chinoise étaient comparables à la fin des années 90 en taille, et qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens de les comparer. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est complètement évidemment différente, et que si Vladimir Poutine continue sur cette voie, le paradoxe c'est qu'il va se mettre à horizon de 10-15 ans dans une situation de junior partner avec la Chine, alors qu'il avait une situation beaucoup plus favorable avec les Occidentaux qui ont quand même essayé de l'accrocher. Alors avec des ratés.
Donc il essaie politiquement de se mettre, jouer ce qu'il ne peut pas jouer sur le plan économique. Je vous propose qu'on poursuive dans la deuxième partie de l'émission géopolitique. Nous retrouvons nos invités Marie Mindras et Thomas Gomard dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les relations entre la Russie et l'Occident et les conséquences de leur forte dégradation depuis l'annexion de la Crimée. En mars 2014, nous retrouvons nos invités Marie Mindras, politologue au CNRS série Sciences Po et membre de la revue Esprit, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, membre de la revue des Deux Mondes et de la revue de l'IFRI, politique étrangère. Marie Mindras, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de la politique à court terme et à long terme de la Russie. Nous évoquions en fin de première partie la relation entre la Chine et la Russie, ayant introduit le propos sur cette conviction à Moscou du caractère inéluctable du déclin de l'Occident.
Auquel je ne crois pas du tout.
Auquel vous ne croyez pas.
Voilà. Je crois que nous avons tendance à prendre pour argent comptant le discours du Kremlin quand ça nous arrange et qu'on veut avancer dans un raisonnement, et puis à ne plus le prendre en compte quand ce discours du Kremlin ne nous arrange pas. Je ne vois pas pourquoi nous considérions que quand quelques dirigeants russes disent « l'Europe ne nous intéresse plus, elle est en déclin, l'Occident est en déclin », pourquoi est-ce qu'on prendrait ça au sérieux ? Tous les éléments que je rassemble sur les positions des uns et des autres, sur la façon dont se fait la politique russe en Ukraine, dans le partenariat économique avec l'Europe, qui reste extrêmement important, je crois que c'est tout le contraire. Je crois que après quelques années où, en effet, au Kremlin, on s'est inquiété d'un certain déclin de la zone euro et de l'Europe, car l'Europe, en tant qu'ensemble économique, reste le partenaire principal de la Russie, aujourd'hui, et surtout en voyant la solidarité européenne dans les sanctions contre le conflit mené par la Russie en Ukraine, le Kremlin se rend compte que l'Europe n'est pas du tout en train de disparaître, qu'on n'est même pas dans un déclin stratégique du monde occidental ou de l'Europe. Simplement, de temps en temps, ils en ont besoin dans le discours, notamment quand est-ce qu'ils essayent de jouer la possibilité de se rapprocher des puissances asiatiques. De même, pendant plusieurs années, les dirigeants russes se sont inquiétés du bipôle Amérique-Chine. Et ils essayent, bien évidemment, de ne pas être écrasés sous ce bipôle. Et il me semble que pour cela, ils ont notamment besoin de l'Europe. Et c'est ainsi qu'ils sont dans une contradiction avec leur politique de confrontation en Ukraine. Parce qu'ils ont besoin de l'Europe, ils le savent. Ils ne peuvent pas imaginer un redressement économique sans essayer d'améliorer les relations économiques, commerciales, financières avec les pays d'Europe, et là, Europe au sens large, également des pays qui ne sont pas
seulement
membres de l'Union européenne, mais voilà, la Turquie, la Norvège. Et on voit bien également dans le comportement des élites russes, que ce soit des chefs d'entreprise, des banquiers, des grandes personnalités culturelles, que l'Europe est le lieu où ils peuvent exister, travailler, où leurs enfants étudient, où en général, ils ont un appartement, une maison. Donc la proximité de l'Europe, elle est là, elle sera là pendant longtemps. Donc faisons attention de ne pas prendre à la lettre, disons, ce renversement stratégique d'une Russie qui se dirait « l'Europe ne me traite pas bien, je peux compenser en faisant des affaires avec le géant chinois ».
Alors, sans prendre les choses à la lettre, ce qu'on voit tout de même, c'est que au moment où il a été décidé de prendre des sanctions vis-à-vis de Moscou, certains pays européens y sont allés à reculons, c'est le moins qu'on puisse dire, mais enfin, ils y sont tout de même allés.
Oui.
Mais alors, on voit la Grèce, le Premier ministre grec était récemment à Moscou, Alexis Tsipras, et la Grèce qui trouve moyen de contourner finalement d'une certaine manière l'embargo économique avec Moscou, qui a proposé des sortes de joint ventures sur le plan commercial avec des entreprises pour trouver à travailler ensemble. Donc alors, une Europe somme toute pas totalement non plus unie, Thomas Gomard.
Elle est unie sur les sanctions. C'est d'ailleurs le seul outil qui était à la disposition de l'Union européenne, et c'est à mon avis un des éléments qui explique la dégradation de la crise. On y reviendra probablement quand on parle de l'Ukraine. Maintenant, il est certain qu'il y a une diplomatie russe qui consiste à la fois effectivement à avoir l'Union européenne dans son ensemble comme premier partenaire commercial, mais aussi qui bilatéralise très volontairement les relations avec
une... Ce qu'ils ont toujours fait.
Absolument, parce que c'est tactique. Une tradition diplomatique, il n'y a pas que la Russie qui procède ainsi, et qui consiste effectivement à s'appuyer sur un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne beaucoup plus favorables à leur thèse. Donc, outre la Grèce, comme vous le mentionnez, où il y a toute une thématique de solidarité orthodoxe qui est savamment construite, il y a eu aussi tout le rôle joué par la Russie à Chypre, l'influence de la Russie exercée comme dans des pays comme la Bulgarie. Et donc là, il y a effectivement un certain nombre de relais tout à fait construits, avec au fond un pari, si vous voulez, à Moscou. Je rejoindrai Marie Mindra sur la manière de relativiser cette idée de déclin de l'Europe, parce qu'on en parle depuis, je dirais, des siècles du déclin de l'Europe. Donc, sur le fait que l'Europe est un rôle très important à jouer, enfin, je suis parfaitement convaincu, etc. En revanche, ce qui est vu, c'est une forme de rétrécissement par la montée des émergents dont la Russie est en train de sortir, d'une certaine manière, de ne pas être dans ces émergents. Enfin, la montée en puissance des émergents, par effet mécanique, réduit...
la Russie.
Absolument, absolument. Mais en revanche, là où je serais en désaccord avec vous, c'est que je pense en revanche qu'on est devant un repli stratégique de l'Europe quand on regarde aujourd'hui ce que les Européens seraient capables de faire seuls en termes militaires. Et là, il y a effectivement des indicateurs sur lesquels on n'a pas suffisamment réfléchi, qui sont les niveaux de dépenses militaires. Première dépense militaire mondiale, les États-Unis, la Chine, la Russie, qui effectivement a aujourd'hui une dépense militaire qu'elle ne peut pas soutenir sur la durée compte tenu de son potentiel économique, hein, qui est de l'ordre de 3,5 de PIB, ce qui est énorme pour une économie qui est en gros la taille de celle de l'Italie. Quatrième rang, l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est aussi un indicateur très intéressant. Et puis ensuite, ce sont les puissances européennes traditionnelles qui péniblement maintiennent un effort militaire, en particulier la France à hauteur de 31 milliards. Bon. Et ça, c'est tout à fait problématique. C'est-à-dire que quand on parle de l'intervention en Syrie ou ailleurs, c'est qu'est-ce qui peut être produit militairement? Et en réalité, pourquoi il n'y a pas eu de décision d'Obama d'intervenir? C'est que c'est tout simplement impossible pour les Européens de faire une non-fly zone en Syrie. On ne sait pas faire ça. Et ça, la Russie le comprend parfaitement, comprend qu'effectivement, il y a des sanctions économiques, mais qu'en même temps, les Européens en tant que tels, je parle pas de la structure otanienne, on y reviendra sur la crise ukrainienne, mais sont dans une situation, effectivement, de fragilité stratégique.
Vous écoutez RFI. Marie-France Chatin.
Alors sur l'Ukraine, Marie Mindras, l'horizon pour une mise en œuvre du traité de Minsk signé en février dernier, il a été fixé à la fin de l'année. Évidemment, la sortie de crise paraît lointaine et cette semaine a été marquée par de nombreuses entorses au cessez-le-feu. Comment est-ce que vous voyez la situation et est-ce qu'au fond, il y a une volonté de paix?
Il n'y a certainement pas de volonté de paix du côté du Kremlin, puisque c'est le Kremlin qui, depuis un an, soutient, d'abord en le cachant, puis ensuite en étant incapable de le cacher, soutient militairement les commandos rebelles dans l'est du Donbass en Ukraine. Donc, à partir du moment où une armée étrangère, c'est-à-dire l'armée russe, aide, et on a absolument toutes les preuves de cela, donc on peut plus douter une seconde du type d'armement qui sont livrés, du nombre de troupes qui sont basées à l'est de l'Ukraine ou bien à la frontière, hein, c'est-à-dire tous les centres de logistique du côté russe, mais vraiment tout près de la frontière. La difficulté de ces accords de Minsk, c'est pas un traité, hein. C'est-à-dire que officiellement, le deuxième accord signé à Minsk le 12 février est un protocole ou accord de mise en œuvre du premier accord de début septembre, donc il y a plus de 6 mois. Hein. Et ce texte en 3 pages est une somme de contradictions et de mesures qui sont absolument impossible d'appliquer toutes ensemble dans les 6 mois qui viennent. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que donc un certain nombre d'États et l'OSCE ont donc accepté au fond de signer un document plein de contradictions et inapplicable. Et on sait pourquoi cela a été fait. C'était pour obtenir un cessez-le-feu. Alors, si on considère que l'objectif de chacun, sauf peut-être de la Russie, mais des autres, étaient un cessez-le-feu, je pense que là, il y a un demi-succès. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de combats, beaucoup moins de pertes humaines, en tout cas jusqu'à cette semaine, hein, par rapport à avant février. On sait aussi que nous, Européens, avons répondu à une demande du président Petro Poroshenko, le président ukrainien, qui savait très bien qu'il avait besoin d'une diminution de l'intensité des combats, car son armée, l'armée ukrainienne, est beaucoup plus faible que l'armée russe. Hein. C'est absolument, absolument mathématique. Forcément, on joue un petit peu au poker menteur. C'est-à-dire que les Russes, qui avaient d'un côté pas envie d'être contraints par ce type d'accord, mais qui en même temps, en tout cas c'est ma conviction, ne tiennent pas à continuer un combat intense dans l'est de l'Ukraine, pour des raisons sur lesquelles on reviendra si vous voulez tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que ce soit tenable, et politiquement et militairement, pour les Russes, de véritablement occuper une partie quand même conséquente du territoire ukrainien à leurs frontières, parce qu'ils ont bien compris qu'ils ne pourraient pas le stabiliser à une intensité forte de conflit. Donc le calcul russe, c'est de stabiliser ce conflit à un niveau de basse intensité. Et tout le débat chez nous en Europe, me semble-t-il, et également à Kiev bien sûr, c'est de savoir comment gérer un conflit de basse intensité. Donc personne n'imagine que les Russes vont lâcher dans les mois qui viennent et renvoyer les hommes à la maison ou cesser de financer les chefs rebelles. On sait aussi que pour Poutine, il y a cet objectif dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'en acceptant une baisse de l'intensité des conflits, il peut espérer avoir un début de levée des sanctions. En tout cas, c'est ce qu'il pense. On voit bien que ça fait partie également du calcul, et comme il n'y a plus de confiance entre nous, les Occidentaux, et les Russes, il n'y a plus de confiance entre Kiev et Moscou non plus, on s'inquiète chaque jour de savoir si les intentions du Kremlin sont véritables et si on arrive à un accord avec eux et on commence à renouer un petit peu le dialogue, est-ce qu'ils vont tout de suite reprendre les hostilités dans l'est de l'Ukraine.
Alors là aussi, Thomas Gomard, je me tourne vers vous. C'est un changement de stratégie de la part de Moscou. Est-ce que c'est un changement de stratégie en réaction à ce qu'évoquait Marie Madras, les sanctions, ou bien c'était quelque chose prévu dès le départ?
Ça, c'est difficile de répondre sur le prévu dès le départ. Je partagerais l'avis selon lequel Minsk 2 était plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on était dans une situation vraiment très dégradée, avec une intensité des combats extrêmement préoccupante. Et d'avoir réussi à stabiliser de manière relative la situation, à mon avis, est un point positif, même si c'est très imparfait et que le document, je vous rejoindrai, porte effectivement des contradictions. Cela étant, nous sommes, de mon point de vue, dans une phase plateau. C'est-à-dire que ça peut redémarrer à tout moment. Il va y avoir un moment, à mon avis, critique après les commémorations du 9 mai à venir. Et le problème central, c'est que c'est Vladimir Poutine qui maîtrise l'escalade militaire. C'est-à-dire que c'est lui qui parvient, en déléguant la violence, à avoir un résultat diplomatique immédiat. Et donc, il est dans un registre que je qualifierais de petite guerre à l'ancienne, c'est-à-dire je fais la guerre pour produire un effet diplomatique très rapidement. Et là, effectivement, sur le lien avec les sanctions, je serais moins convaincu. C'est-à-dire que je pense que, tout pendant que l'Union européenne ne parle que de sanctions, elle évite en réalité le vrai sujet qui est un sujet de sécurité, au sens aigu. C'est pour ça qu'à mon avis, la crise doit à la fois, plus que la crise, le conflit, doit être à la fois pensé en termes de relations avec l'Union européenne, mais aussi avec l'OTAN. Et que, à mon sens, ce qui peut susciter un changement de comportement de la Russie, davantage que les sanctions, ce sont les mesures de réassurance en termes de sécurité prises par les pays de l'OTAN. Non pas du tout pour intervenir en Ukraine, ça l'OTAN a été très clair là-dessus au mois de septembre, mais d'indiquer à la Russie qu'une des conséquences, il y en a d'autres, mais une des conséquences principales de son comportement, c'est précisément de faire que l'OTAN se rapproche de ses frontières.
Mais l'OTAN le fait, il me semble.
Oui, l'OTAN...
Il me semble qu'il y a une assez bonne concertation entre les mesures de type économique et financière que peut prendre l'Union européenne et la détermination clairement exprimée de l'OTAN de répondre aux demandes, justement, de réassurance de pays comme les pays baltes et la Pologne.
Mais alors, par rapport à ce que nous évoquions tout à l'heure, pardonnez-moi, mais là, on se retrouve dans une sorte de confrontation non plus russo-européenne, mais russo-otanienne, ce qui déplace le débat Thomas Gomard.
Oui, alors précisément, je pense que politiquement, il y a quelque chose qui est difficile à construire, qui est les sanctions prises par l'Union européenne et d'autres pays comme les États-Unis, qui ne sont pas les mêmes sanctions. Ce qui a aussi des implications parce qu'en fait, ça crée des frictions. Et des pays comme le Japon, l'Australie, et les mesures de réassurance dans le cadre de l'OTAN. Je pense que sur le plan politique, c'est une situation à la fois potentiellement très riche et parfois inconfortable pour un pays comme la France. Parce qu'à la fois, il y a Minsk, et ce que l'opinion publique française ne sait pas, c'est que la France est peut-être le pays le plus avancé en termes de réassurance dans le cadre de l'OTAN. Donc il y a ces deux aspects, à mon avis, il y a cette dialectique à établir et à expliquer politiquement. Alors pour en revenir maintenant aux États-Unis, moi l'impression que j'ai aux États-Unis, il y a deux choses. C'est qu'avant l'été, le plan de sanctions à venir était beaucoup plus préparé et beaucoup plus dur que celui des Européens. Et qu'en même temps, ça a été exprimé dans plusieurs cadres, il y a un discours à Washington, alors il y a un discours très anti-russe, effectivement, notamment au Congrès, mais il y a un discours consistant à dire « mais en fait, c'est votre sujet, vous, Européens, c'est votre voisinage, et vous n'êtes pas capable de gérer ça en réalité ». Et une volonté de rester, à mon avis, à distance de la part d'Obama, qui, rappelons-le, a fondamentalement été élu, et ça s'observe au Moyen-Orient également, pour se retirer, et pas pour, je dirais, réajouter de la présence militaire. Alors c'est certain que pour un certain nombre de pays européens, il n'y a pas de solution à la crise sans participation des États-Unis, et que dans le discours russe, il y a ce discours très ancien là aussi, consistant à dire « Ah, mais si c'est uniquement entre pan-européens, on y arrivera, mais dès que les Américains s'y mêleront, on n'y arrivera pas, et ça sera une situation conflictuelle. » Donc le facteur américain là-dessus est effectivement décisif, et la manière dont il va intervenir est une des clés de la sortie de crise.
Marie Mandras, la position de la France, Thomas Gomard nous plaçait très en avant-poste pour ce qui était des sanctions. Je pense à la question de la vente des navires, les Mistral à la Russie, en pleine...
Si vous permettez, précisément, pas sur les sanctions, mais sur la réassurance.
Pardon, sur la réassurance. Alors, justement, et donc la vente des Mistral à la Russie, peut-être...
Elle est suspendue, et la suspension est maintenue tant que la situation n'évolue pas en Ukraine. Cette position a été posée un peu tardivement, à mon avis, par le président Hollande début septembre et ne peut pas être révisée tant que la situation ne s'améliore pas très nettement. Je pense que la France, il me semble, a plutôt bien tenu sa ligne depuis 6 mois. C'est à la fois d'être l'un des deux pays à mener la négociation, donc avec l'Allemagne, les accords de Minsk, et de représenter au fond l'Europe et aussi d'une certaine manière l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. En même temps, de maintenir le plus possible des liens et des interlocuteurs en Russie, ce que fait aussi l'Allemagne d'ailleurs, mais de jouer le jeu au sein de l'OTAN. Et, ça c'est la bonne surprise, de jouer un tout petit peu mieux le jeu aussi dans les institutions européennes. Je trouve que ça a été un vrai progrès et j'espère que ça va continuer.
Quelques mots pour terminer parce que la pendule tourne. La commémoration du 9 mai, vous l'évoquiez tout à l'heure, Thomas Gomard, le 79e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir qui sera sur place.
Oui, je ne sais pas si c'est vraiment la question intéressante. Je pense que la vraie question, c'est plutôt l'incapacité de la Russie à faire son travail de mémoire. Et en réalité, la mémoire qui joue, c'est pas du tout celle de la guerre froide dans le comportement de la Russie, mais c'est celle de la Grande Guerre patriotique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la crise en Ukraine est autant une conséquence de la chute de l'URSS que de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est ce qu'il y a en train de rejouer dans tout le discours sur « je qualifie l'autre de nazi ». On est en fait face à un pays qui a payé un tel tribut entre 1941 et 1945, sans parler de la période stalinienne, et c'est à mon avis cette mémoire-là qui est en train de s'exprimer.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Marie Mandras, politologue au CNRS Série Sciences Po et membre de la revue Esprit. Thomas Gomard, directeur de l'IFRI et membre de la revue des Deux Mondes et de la revue de l'IFRI Politique étrangère. Je signale aussi, pour aller plus loin, l'ouvrage de Christine Dugoin-Clément et Mathieu Bouleg, l'Ukraine entre déchirement et recomposition aux éditions L'Armetan. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, Le Débat, émission Cinéma et France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacré au 100e anniversaire du génocide arménien et à l'avenir des relations entre la Turquie et l'Arménie. À demain.